Chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche, Cases et Bulles, où je vais vous parler aujourd'hui de trois bandes dessinées qui sont toutes historiques à un titre divers. Ça s'appellera quand même l'actualité de la bande dessinée, parce que j'ai du mal à aligner les trois. Il y a une bande dessinée comique et deux bandes dessinées historiques. Ces bandes dessinées empruntent largement, évidemment, à la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est compliqué de passer à côté d'une manière générale. Et surtout, là, on sent qu'il y a une espèce de faveur éditoriale autour de cette période, et évidemment, de tout ce qui est arrivé, de tout ce qu'on raconte et de tout ce qu'on peut raconter. Je vais commencer par la bande dessinée de Julien Hervieux, Les Rescapés de l'Histoire, paru chez Fluide Glacial. Donc, Julien Hervieux, c'est celui qui est l'auteur du Petit Théâtre des Opérations. On en a parlé assez souvent. Alors, il a un blog qui s'appelait Le Blog d'un Odieux Connard, dans lequel donc il avait commencé par faire des critiques de films qui étaient assez drôles, parce que il critiquait en fait les films uniquement sous l'angle de la cohérence scénaristique, avec en relevant les trous qui sont généralement des cratères dans les péripéties, surtout les péripéties des films à grand spectacle hollywoodien. Avec la manière dont on nous propose des péripéties et des retournements de situation qui sont absolument incohérents par rapport à l'histoire telle qu'elle est posée dans les premières minutes. Il a ensuite commencé à parler du wokisme avec des dessins et des textes assez amusants, d'ailleurs qui sont toujours d'actualité d'une certaine manière, même si maintenant il est carrément admis aujourd'hui que les woke sont des gens diminués du bulbe. Là, en l'occurrence, c'était intéressant parce qu'on avait droit à la critique de quelqu'un dont on sentait qu'il était d'une sensibilité de gauche et qui en fait était exaspéré par la manière là aussi incohérente dont son propre camp avait de défendre avec un double langage, une double pensée, des doubles critères, des doubles standards, comme on dirait aujourd'hui, de défendre des opinions qui étaient évidemment contraires aux principes qu'ils énonçaient. C'est-à-dire, il ne faut pas être raciste, mais par contre, les gens racisés ont le droit de l'être, etc. Et enfin, on a vu apparaître au milieu de son blog des petites vidéos qui étaient tout à fait amusantes, où il revenait sur des moments oubliés de la Première Guerre ou de la Seconde Guerre mondiale, avec des héros improbables qui étaient capables d'exploits remarquables et qui partageaient tous au moins une caractéristique, c'était précisément d'avoir été oublié. L'histoire était juste une note en bas de page, quand bien même c'était un exploit individuel remarquable ou une épopée collective fantastique ou au contraire terriblement grotesque. Donc voilà, tout l'intéressait, à la fois les grandes faillites comme les grandes réussites. Et c'est Petit Théâtre des Opérations est devenu une bande dessinée par Monsieur Le Chien. Il y a au moins 4 tomes qui sont déjà parus. C'est une joie à chaque fois, d'abord parce que en fait, ce sont des bouquins qui sont d'un patriotisme échevelé et on sent que Julien Hervieux a un peu réévalué une partie des opinions qui devaient être les siennes. Il est toujours resté discret sur son idéologie, en tout cas sur sa mythologie personnelle. Mais voilà, peu à peu, évidemment, l'exaltation des Français patriotes, avec toujours ce côté un peu les petits contre les grands et le petit tailleur contre les soldats du roi, était amusante. Et le Petit Théâtre des Opérations, et surtout Julien Hervieux, est devenu une marque, en quelque sorte, qui est déclinée. Donc, Monsieur Le Chien continue à s'occuper du Petit Théâtre des Opérations, proprement dit. Il y a d'autres dessinateurs qui s'occupent des épopées napoléoniennes, par exemple. Et on a commencé à décliner la chose avec un album sur plus haut, plus vite, plus sport, mystère et arnaque. À chaque fois, c'est donc la note en bas de page qui fait une histoire de 4 ou 5 pages. Là, ce sont les rescapés de l'histoire avec 7 ou 8 dessinateurs différents qui nous racontent comment une infirmière a été sauvée et a été la seule survivante du crash d'un avion, comment est-ce que des cosmonautes russes aussi ont survécu à une catastrophe, et avec évidemment, comme ça se passe en Russie, les joies de l'enfermement, une fois qu'on a été sauvé, on se retrouve quand même au goulag, et comme ça, des gens qui inventent des chariots à voile aux États-Unis. C'est amusant, on découvre telle ou telle histoire. À chaque fois, il y a une page récapitulative qui permet de comprendre qu'en fait, il s'agit bien d'une histoire vraie. Et donc, ce qui est la marque de fabrique de Julien Hervieux, il n'extrapole jamais. Évidemment, dans le scénario, dans l'enchaînement des cases, dans la manière un peu bouffonne dont peuvent parler tel ou tel personnage, On sent bien qu'on s'écarte d'un strict rendu des faits. Il y a toujours d'ailleurs dans la manière dont le personnage ou les personnages sont en train de raconter ce qui se passe, une espèce de prise de distance ironique avec l'événement, qui est un effet comique assez sûr, mais qui en même temps est assez, grossier, non pas au sens où ce serait vulgaire, mais c'est un peu trop souligné. Le fait que le personnage ait l'air d'être particulièrement conscient de vivre quelque chose plutôt que de simplement le vivre, qu'il soit en train de se commenter lui-même, finit par lasser au fil des pages. Donc Julien Hervieux reste un bon scénariste, mais on a l'impression que ce sont presque des histoires qui avaient été un peu éliminées et qu'il a tenu néanmoins à récupérer, parce que c'est vrai, une histoire de catastrophe, deux, trois, une fois qu'on en a huit, on a matière à faire un album. Le petit théâtre des opérations reste quand même sa série phare, celle qu'il maîtrise à fond. Voilà, les rescapés de l'histoire de Julien Hervieux aux éditions Fluide Glacial sont un chef-d'œuvre dispensable, comme diraient nos amis anglo-saxons. Voilà, en fait, ce n'est pas un chef-d'œuvre, on n'est pas obligé de l'acheter, on peut la feuilleter, on peut trouver ça amusant. Il y a un côté bouffon qui est plaisant, mais il y manque cette double lecture à la fois d'une ironie, d'une exaltation de la geste guerrière qui malgré tout fait tout le charme du petit théâtre des opérations. Les deux autres albums, eux, nous parlent de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment L'homme qui trahit Hitler dans la série Guerre secrète chez Glénat, et Le choc des titrans aux éditions Glénat aussi. À chaque fois, ce sont des séries. Alors, Le choc des tyrans raconte, bien sûr, les rapports entre Staline et Hitler, depuis le pacte germano-soviétique et un peu avant, jusqu'à la conclusion, bien sûr, la conclusion provisoire, puisque de la chute d'Hitler. Il y a trois tomes qui sont annoncés. Le premier vient de paraître. Ce qu'il y a d'intéressant dans cet album, donc Le choc des tyrans, tome 1 de Michael Prazan et Gabriel Andrade, c'est d'une part les sources, puisqu'il est dit à la fin de l'album que les auteurs remercient Georges-Marc Benamou et la société Siècle Productions, producteur du film documentaire Hitler-Staline, Le choc des tyrans, donc qui est une adaptation, donc la bande dessinée est une adaptation de ce texte. De ce documentaire. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est la manière dont Hitler et Staline sont mis sur un pied d'égalité. Voilà, il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre, ou ils sont tous les deux aussi brillamment intelligents et diaboliques. Il n'y en a pas un qui est plus diabolique que l'autre. On insiste beaucoup sur la terreur que Staline fait régner en URSS. On insiste beaucoup sur leur antisémitisme commun. On insiste beaucoup sur leur prétendue rouerie où chacun croit truander l'autre et où en fait chacun tire profit de la manière dont les choses se passent. Le pacte germano-soviétique n'est absolument pas présenté comme une gloire je ne trouve pas mes mots, vous me pardonnerez, ce n'est pas Staline qui réussit d'une manière géniale à ralentir Hitler, ni Hitler qui réussit d'une manière géniale à retarder l'ouverture d'un front bolchevique. Ce sont tous les deux qui décident en fait de se partager l'Europe, comme d'ailleurs après la guerre l'Europe sera partagée avec les conférences de Yalta. Et tous les deux ont immédiatement un côté prédateur qui est parfaitement montré. La bande dessinée est imprimée, on n'en parle pas souvent, mais malgré tout c'est intéressant, sur un papier mat, et vous verrez, par rapport au papier demi-mat, au papier demi-couché en fait, qu'on a l'habitude d'avoir, que ce caractère lisse et justement où rien ne vient rejaillir de la page dans l'œil, a une qualité incroyable. Le dessin est à la limite de la photographie, ou plutôt on sent que beaucoup de photographies ont été regardées. Il y a une précision du trait, il y a une mise en couleur qui est tout à fait originale, avec des personnages qui sont comme par exemple dans un camaïeu de brun, un camaïeu de gris, un camaïeu de vert, donc qui sont un peu comme une mise en couleur dans Lucky Luke de Maurice, c'est-à-dire on est à la fois dans le réalisme et aussi dans une certaine symbolisation, une certaine schématisation. Il s'agit que chaque cas soit au maximum de l'effet qu'on a envie de produire, et donc il ne s'agit pas de rendre les chairs avec les tons les plus délicats et les incarnats les plus travaillés, pas du tout. Et il s'agit au contraire de que chaque case soit efficace dans ce qu'elle a envie de projeter comme message, avec d'ailleurs toute une série de péripéties, qu'il s'agisse de l'incendie du Reichstag, qu'il s'agisse de telle ou telle déportation de juifs, et notamment la manière dont, aimablement, en cadeau après le pacte germano-soviétique, Staline décide de livrer quelques dizaines de milliers de réfugiés allemands en URSS, et donc de les renvoyer en Allemagne en choisissant d'abord les juifs, et même en doublant la dose, c'est-à-dire Hitler réclamait 20 000 prisonniers politiques, on lui en envoie 40, voilà, en geste de bonne foi. Et évidemment, on voit les soldats rouges flinguer une partie des gens au fur et à mesure qu'ils arrivent. Voilà. Donc, les deux protagonistes sont vraiment mis à égalité. Mais indépendamment de ces péripéties, indépendamment de ces cases très fortes, de ces scènes de liesse, de la vérité incroyable de ces visages, on est vraiment plongé dans une bande dessinée qui est une bande dessinée historique et qui veut que le dessin porte l'objectivité de ce qui est raconté. Je ne rentrerai pas dans la manière dont on évalue ou pas le pacte germano-soviétique. Vous pensez bien que pour moi c'était quelque chose d'abominable, et je trouve, pour autant que je connaisse l'histoire, qu'elle est raisonnablement bien racontée dans cet album. Et il y a aussi tout ce qui est sous-jacent, puisque maintenant on connaît l'histoire, puisque maintenant les documents sont sortis, puisque le narratif communiste sur ce pacte germano-soviétique est désormais derrière nous. On voit à quel point les communistes ont été les alter-ego des nazis, et inversement, et à quel point il y avait une volonté de domination, une volonté de puissance. Voilà, Staline a réussi la partie finale, mais là il est présenté véritablement comme un tyran, au même titre que Hitler. C'est, je rappelle le titre d'ailleurs, Le choc des tyrans, donc série en 3 volumes aux éditions Glénat. Le premier tome est paru. C'est fascinant de rouerie, c'est fascinant de méchanceté. Il y a aussi une lente montée de l'ensemble des dirigeants européens vers la manière dont on va admettre ce qui est en train de se passer. Et donc les discussions au Berghof, les discussions au Kremlin, la manière dont les fidèles se font trucider, la manière dont Staline ordonne que tel ou tel soit éliminé, est absolument fascinante. Évidemment, il y a les maîtresses des deux grands hommes qui sont des figures qui traversent aussi l'album. Toujours donc avec ce dessin qui est objectif, ce dessin qui précise, ce dessin dont on sent qu'il est d'abord et avant tout une espèce de documentaire bis. Il y a l'histoire, mais il y a ce qu'on montre. Le fait que ce soit adapté d'un documentaire, évidemment, on sent à quel point le dessinateur a regardé les images d'archives que les auteurs du documentaire avaient réussi à trouver, et il les utilise au mieux. Avec, là aussi, ben, des dessins qui peuvent faire frémir quand il s'agit de la mise en scène de la puissance nazie ou de la puissance bolchevique, mais aussi, bien sûr, les sorts individuels et tout aussi tragiques de tel ou tel. Un album vraiment intéressant, très bien dessiné par Gabriel Andrade. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé c'est le but du jeu, d'ailleurs vous êtes obligé de m'entendre parler pendant 26 minutes et 40 secondes, mais c'est aussi le moment de vous dire qu'il serait intéressant que vous souteniez Radio Courtoisie. Pourquoi ? Parce que Radio Courtoisie, voilà, est une radio libre. Radio Courtoisie est une radio qui est écoutée par 1,5 million de personnes chaque semaine, de personnes différentes. Voilà, et sur ce 1,5 million de personnes qui nous écoutent, à peine 20 000 nous donnent, dire même pas 20 000, plutôt 18 000. Donc merci beaucoup à ces 18 000 là. Et pour tous les autres, n'hésitez pas, c'est simple, rejoignez ceux qui nous écoutent avec plaisir et nous soutiennent avec plaisir, et nous soutiennent même modestement 1 euro, 2 euros, 5 euros, voilà, parfait, c'est très bien. Vous imaginez, voilà, si vous étiez 1,5 million à nous donner 1 euro, ce serait épatant. Si vous étiez 1,5 million à nous donner 2 euros, 2 euros chacun, ce serait encore mieux, et on aurait rigoureusement aucun souci financier. On continuerait à vous réclamer des sous, mais juste pour pouvoir faire de très bonnes émissions. Alors, cette émission-ci, ou toutes les autres, voilà, Daniel Abrecorn, Arnaud Guyot-Janin, Philippe Payen-Appenzeller, Christine Lanier, que j'ai déjà citée, et pardonnez-moi, tous les autres chers patrons d'émissions sur Radio Courtoisie, vous êtes Pascal Payen-Appenzeller, pardon, pardonnez-moi pour tous ceux dont je ne cite pas les noms, mais je vous citerai la prochaine fois. Il nous reste un dernier album. Je suis peut-être allé un peu vite, c'est « L'homme qui trahit Hitler » de Philippe Richel et Georges Miguel, dont la série « Guerre secrète », lancée elle aussi par Glénat. Je vous ai parlé la semaine dernière de la boutique aux horreurs qui racontait la mise au point d'un programme qui mélangeait à la fois LSD, électrodes dans le cerveau et autres joyeusetés mises au point par les psychiatres américains embauchés par la CIA pour comprendre les secrets du cerveau humain, comprendre les secrets de sa manipulation, faire en sorte d'être capable de suggérer à tel ou tel d'être un assassin. Voilà. C'était absolument passionnant. On descendait dans ce que les États-Unis sont capables de faire, et notamment dans la récupération, bien sûr, de toutes ces expérimentations nazies ou japonaises absolument abominables. Donc, on était dans l'histoire vraie, puisque la boutique aux horreurs est adaptée des souvenirs d'un véritable agent de la CIA qui raconte des choses vraies, qui raconte un programme qui a été clos en 1973 et dont on a essayé de faire disparaître les traces. Là, ici, il s'agit de l'homme qui trahit Hitler. Donc, c'est l'histoire, en fait, de Hans Thilo Schmidt, chimiste, frère d'un officier de la Wehrmacht, qui va peu à peu, et notamment à partir du moment où il est sérieusement blessé pendant la guerre de 14-18, prendre en détestation son pays et se transformer en agent de renseignement au profit de la France, qui, hélas, n'en fera pas le meilleur usage. Très bon album. Là, vraiment, on le lit avec passion. Et d'ailleurs, je trouve que c'est le deuxième album de cette série Guerre secrète qui m'a l'air très bonne. Alors évidemment, le troisième album annoncé s'appelle La vérité sur Ben Barka. Je suppose que j'aurai un avis peut-être un peu plus réservé, même si les barbouzeries de De Gaulle n'ont absolument rien d'aimable. Il faudra voir comment est-ce qu'on nous présente Ben Barka comme un saint laïc ou au contraire comme un terroriste. On verra bien. Là, on accompagne Hans Thilo Schmidt depuis l'automne 1916. Où il est atteint par les gaz et notamment par le phosgène, et donc il est en train d'y laisser ses poumons. Et en sortant de la guerre, donc en 1929-1930, il décide, au creux de la vague, alors que la récession a absolument frappé l'Allemagne, et que lui-même est absolument au fond du trou. Il décide d'une part d'accepter de rentrer au ministère de la Défense, dans le service du chiffrement, et de devenir membre du Parti national-socialiste. Alors, on est donc en 1931, et les Français reçoivent en juillet 1931, avenue de Tourville, une proposition de collaboration. Tarifé, avec la personne qui écrit, dit: voilà, je confirme ce que j'ai dit le 8 juin à Monsieur Déjean, votre représentant à la Pariser Platz. Je suis en mesure de négocier des documents de la plus haute importance afin de vous convaincre du sérieux de mon offre. Je vous donne ci-après quelques références. Vos spécialistes sauront ce qu'elles valent. Alors, et notamment, donc, il commence à vendre les secrets d'Enigma, donc la machine à chiffrer mythique des Allemands, que les Allemands eux-mêmes avaient acheté à un industriel qui voulait crypter les communications économiques, et qui, à l'époque, ça n'intéressait personne. L'armée allemande s'était rendue compte de l'intérêt de la chose, rachète les brevets et la machine, la perfectionne, et donc ça va devenir Enigma. Et donc il y a 1000 romans, films et bandes dessinées qui ont été écrits autour d'Enigma et de la manière dont les services secrets vont réussir à percer ce secret. Là, Schmitt commence à donner aux Français des renseignements. Il les donne contre de l'argent, et il les donne pour faire en sorte de pouvoir, d'une part, construire une fabrique de savon, car il était ingénieur chimiste avant la crise de 29, et donc sa passion, c'est le savon. Il va réussir à faire financer, en fait, son usine et son installation en Suisse par les services secrets français, qui reçoivent des renseignements absolument passionnants, à la fois sur Enigma, mais aussi, bien sûr, sur les plans d'invasion d'Hitler et la manière dont il prévoit, si j'ose dire, la manière dont il a prévu d'envahir la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Autriche et la France. Et c'est ça qui est absolument remarquable. On se retrouve en novembre 37 avec le plan d'invasion de l'Europe, qui est envoyé par les courriers habituels à l'ambassade de France. L'ambassade de France envoie un courrier crypté de l'ambassade de France en Allemagne en France, et évidemment Berlin, qui est devenu excellent en matière de cryptographie, est capable de décrypter ce que fait l'ambassade de France. Donc, nous avons intercepté un télégramme envoyé par l'ambassade de France au Quai d'Orsay. Nous connaissons leur chiffrement depuis des années. Le télégramme relate une réunion secrète qui s'est tenue avant-hier à la chancellerie. Et donc, ils sont en train de se dire, voilà, dans le cercle le plus étroit autour d'Hitler, il y a quelqu'un qui trahit et qui est capable de refiler les plans secrets d'invasion de l'Europe à la France. On est en 1937, la France n'en fera rigoureusement rien. Alors, elle n'en fera rien, en partie parce que, évidemment, ce sont des pacifistes qui sont à la tête du pays, et ces pacifistes préfèrent croire, en fait, que la Wehrmacht n'est pas au point, préfèrent croire que l'ogre allemand n'est pas capable de se réveiller, voilà, préfèrent croire, en fait, malgré la Pologne, mais malgré le reste, qu'en fait, la France sera à part. Et donc, Schmitt continue, lui, à envoyer ses renseignements, et il les envoie il envoie les détails du plan Manstein, je ne sais pas comment on dit, Manstein peut-être, en France, et évidemment, au ministère des Armées, on explique que les Ardennes sont infranchissables, et que Pétain a dit d'ailleurs que les Ardennes étaient infranchissables, donc que les Ardennes ne seront pas franchies, bon, vous connaissez la suite, et ce qui se passe en mai 1940, les Ardennes sont franchies, et les malins du ministère sont un peu empêchés, et surtout, l'ensemble des archives secrètes, y compris donc tout ce qui se passe avec Schmitt, laissés sur place, en partie emportés. Et donc, on est au fur et à mesure absolument fasciné par la personnalité de Schmitt, qui n'est pas tellement sympathique. Il trahit son pays pour de l'argent. Et peu à peu, il bâtit son avenir d'industriel. Et donc, grenouille autour, la montée de la puissance nazie, le péril allemand pour la France et les autres pays d'Europe. Et lui, ce qui l'excite, c'est véritablement, de continuer à fréquenter ses amis du parti nazi parce qu'il lui apporte des renseignements. Son frère, qui est devenu général dans la Wehrmacht parce qu'il lui apporte une partie des autres renseignements. Et donc, en même temps qu'il trahit son pays, il trahit aussi d'une certaine manière la confiance de ses amis et la confiance de sa famille. Mais peu à peu, il se persuade, en tout cas, c'est comme ça qu'il le dira, que c'est pour le plus grand bien et que l'appât du gain, peu à peu, est recouvert, en fait, par la volonté de faire pièce aux nazis. J'espère que vous le percevez dans ma voix. L'album est remarquablement écrit. On alterne à travers des personnages bien choisis, tel ou tel personnage de l'ambassade de France, tel ou tel courrier, tel ou tel officier traitant, et Schmitt, sa famille et ses amis. On avance peu à peu vers évidemment le moment où Schmitt sera découvert en 43 et où il finira interné et bien sûr suicidé en prison. Avec une galerie d'Allemands néfastes. Et là, on est à la limite du stéréotype raciste entre l'officier maigre, manchot et borgne qui lève son verre derrière une croix gammée, avec une croix gammée derrière lui à la victoire de l'armée allemande en Russie soviétique, où deux ou trois accords Gretchen, qui sont vraiment replètes et qui courent après des bulldogs tout aussi replets. On a l'impression d'être un peu dans une bande dessinée à la Jean-Michel Charlier, où les méchants avaient des têtes de méchants et les gentils des têtes de gentils. Et là, évidemment, tous les Français sont plutôt minces, élégants et bruns, avec les tempes légèrement grisonnantes. Je me suis beaucoup projeté chez eux. Et les Allemands, au contraire, il y a une collection de grassouillés nazis qui est particulièrement gratiné. Mais l'album est vraiment passionnant. Là aussi, c'est une histoire vraie. Et ce travail, Philippe Richel et Georges Miguel, l'un au dessin, l'autre au scénario, réalisent vraiment un album de bande dessinée passionnant, avec un dessin réaliste, mais pas non plus minutieux, une mise en couleur tout à fait agréable, une volonté de multiplier les plans qui fait en sorte qu'on est emporté dans quelque chose qui est ni plus ni moins qu'une espèce de film sur papier. Et là, les rapports entre bande dessinée et cinéma sont particulièrement vifs ici, à la fois dans le montage et à la fois dans la multiplication des plans. C'est très vivant, c'est très bien dessiné, c'est très bien raconté. Voilà, L'homme qui trahit Hitler, de Philippe Richel et Georges Miguel aux éditions Glénat. Toujours aux éditions Glénat, le premier tome, Le choc des tyrans, donc d'une histoire en trois tomes sur le pacte germano-soviétique, ses origines et sa conclusion, et enfin Les rescapés de l'histoire chez Fluide Glacial par Julien Hervieux. Ces trois albums sont vraiment efficaces. Voilà. Si vous deviez n'en acheter qu'un, j'aurais tendance à vous dire de faire fond sur les guerres secrètes, en tout cas pour les deux premiers tomes, et d'attendre peut-être que les deux tomes suivants du choc des tyrans confirment la bonne impression que le premier nous fait. Mais aussi, et comme d'habitude, mon seul véritable conseil, ce sera de hanter les librairies de bande dessinée et ne vous contentez pas d'aller dans les grandes surfaces, allez chez les petits auteurs de bande, les petits libraires de bande dessinée avec ces maisons d'édition minuscules qui parfois publient des choses tout à fait surprenantes. On n'en parle pas assez, en tout cas moi, puisque Christol a plus de curiosité et en tout cas plus de ténacité dans la manière dont il demande des services de presse, mais ce sont véritablement des mines, et pour celui qui aime le bon dessin et qui aime être surpris, voilà, le libraire indépendant est quand même la meilleure des ressources, et en plus ils acceptent qu'on feuillette les étals et qu'on leur demande des renseignements. Voilà, je suis heureux d'avoir passé une demi-heure avec vous pour parler planche casse zébule, pour parler d'actualité de la bande dessinée, et je vous dis au revoir et à la semaine prochaine, où ce coup-ci Christol Seyec heureusement me rejoindra.